Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour écouter la présentation de Pierre Sabatier. Donc nous sommes très heureux ce soir de recevoir Pierre Sabatier dans une conférence qui est en partenariat avec l'Académie régionale des dirigeants, qui est une académie extrêmement dynamique de formation et d'information. Vous trouverez à l'entrée une brochure présentant l'ensemble de leurs activités. Donc Pierre Sabatier, vous avez coécrit un ouvrage, donc La Chine, bombe à retardement, aux éditions Erol, dans laquelle vous présentez un portrait, pour une fois, on va dire, nuancé de la question chinoise, qui donne lieu à beaucoup de fantasmes et beaucoup de surinterprétations, et dans lequel vous décrivez néanmoins un système qui est, si ce n'est à bout de souffle, au moins pour lequel une mutation nécessaire doit probablement s'engager. Donc je vous laisse pour cette présentation et merci encore.
Oui, merci de m'accueillir dans cette très belle librairie historique. Alors, on va commencer très rapidement. Je vais vous dire pourquoi on écrit ce bouquin. Pourquoi on ? Déjà, le on, c'est un ouvrage collectif, le fruit d'un travail à deux mains ou à quatre mains, donc avec donc le co-auteur qui m'a permis en fait aussi de pénétrer, on va dire, le milieu chinois de l'intérieur, parce qu'on a j'ai la chance qu'il soit marié à une Shanghaïenne, et ça vous ouvre un certain nombre de portes quand vous allez sur place pour ne pas suivre justement les chemins tracés et puis aller découvrir un petit peu la réalité de ce qui se passe dans l'économie notamment le tissu privé en Chine, y compris dans les grandes métropoles. Alors pourquoi on s'intéresse à la question chinoise ? Parce que d'abord, on est ingénieur agronome de formation avant d'être économiste. Et on nous a appris, une des premières choses qu'on nous a appris sur les bancs de cette école d'ingénieurs, c'est que globalement, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc quand on voit pendant 30 ans un pays, en plus continent, croître chaque année de 10% par an pendant aussi longtemps, qu'on regarde un petit peu l'histoire et qu'on constate que ça ne s'est jamais produit, en tout cas avec une telle régularité par le passé, on se dit, tiens, en tout cas, on va essayer de comprendre, d'analyser en fait les fondations sur lesquelles repose cette croissance, cette grande réussite, cette réussite fulgurante de la Chine au cours des trois dernières décennies, et s'interroger parce que bon, refaire l'histoire, à la limite, c'est pas très intéressant. D'autres le font très bien sur les plateaux télé. On va essayer de se projeter et savoir si les fondations qui ont permis cette réussite au cours des 30 dernières années peuvent rester les mêmes, peuvent apparaître suffisamment solides pour continuer sur ce rythme-là et pour enfin, je dirais, que la Chine regagne son statut hégémonique qu'il a perdu il y a quelques siècles et redevienne la première puissance économique mondiale. Horizon 2030, 2040, 2050, 2060. Vous avez à peu près, vous pouvez à peu près tout lire en fait dans les journaux ou entendre sur les plateaux télé à ce sujet. Alors, je ne vais pas commencer par la fin, mais je vais très clairement vous dire que j'y crois pas. J'y crois pas même une seconde. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder ensemble quelles ont été les fondations réelles sur lesquelles l'économie chinoise a pu se transformer d'un statut de nain économique en statut de première puissance exportatrice au monde et deuxième économie mondiale devant le Japon depuis 2010-2011. Alors, la première des choses, c'est lorsqu'on regarde la Chine. Je vais vous diffuser quelques slides, quelques diapos, simplement parce qu'on a la conviction chevillée au corps qu'un graphique, qu'une donnée, parfois ça parle mieux qu'un beau discours. Parce que derrière un beau discours, voilà, vous pouvez manipuler les choses. Donc je vais vous montrer un certain nombre de choses et vous en déduirez des conclusions qui seront sans doute proches des nôtres. La première des choses, c'est lorsqu'on étudie l'économie chinoise, il faut bien avoir conscience qu'on n'étudie pas l'économie américaine ou l'économie française. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au cours des deux dernières années, on vous ressasse le cas grec. Le cas grec, c'est quoi ? C'est globalement manque de transparence dans les données diffusées au niveau de l'Union européenne. Globalement, si ça se passe en Grèce, dans un pouvoir qui est censé être une démocratie, vous comprenez qu'il est extrêmement compliqué de se fier aux données économiques disponibles sur l'économie chinoise, qui reste un pouvoir donc autoritaire et dans lequel il est extrêmement compliqué de vérifier la validité des données qu'on nous fournit. Je vous donne là aussi une autre anecdote qui nous a beaucoup amusé lorsque ça s'est produit. Rappelez-vous en fait Copenhague, vous savez, cette fameuse conférence à l'époque où on se souciait de trouver des énergies alternatives aux énergies fossiles. Je dis à l'époque, c'est tout bêtement parce qu'en fait, il y a des choses très amusantes en économie. La seule chose qui fait prendre aux populations, enfin, qui donne une conscience collective et notamment une conscience environnementale aux populations, c'est quand le prix du pétrole atteint $160. Lorsqu'il revient à 80, tout de suite, bon, voilà, on oublie. Bon, mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque, quel était le sujet qui nous intéresse, c'est le comportement des Chinois et les données qu'on nous fournit. Le comportement chinois au moment des négociations, c'est quoi? C'est de vous dire, vous voulez combien? Combien de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2015 ou 2020? En sachant que, vous le verrez tout à l'heure, c'est une économie extrêmement énergivore, très industrielle, très industrieuse, qui repose beaucoup sur la consommation d'énergie fossile, consommation d'engrais, enfin voilà, de tout un tas de produits en fait à base de ressources fossiles. Donc ils ont posé la question, vous voulez combien? 20, 30, 40, 50? Je vous propose 50%. D'ici 2015, entre 2015 et 2020, je ferai 50% de baisse de mes émissions par unité de richesse produite. Mais, et c'est le mais qui est très intéressant, je ne vous autorise pas à venir contrôler. Voilà, donc vous avez compris en fait la difficulté, c'est-à-dire que là on est dans le discours. Et en fait la problématique qu'on va avoir pour nous en tant qu'économistes, il va falloir qu'on retraite en fait les données qui nous sont fournies, puisque voilà, on le sait, hein, pour être un petit peu du milieu parisien, hein, malheureusement je ne suis que de passage à Bordeaux, il est souvent, enfin la croissance chinoise elle est faite au 1er janvier de l'année qui précède, hein, et en général vous n'avez pas beaucoup d'écart avec ce qui est atteint, en tout cas ce qui est diffusé l'année qui suit, hein, et on sait qu'elle est souvent en fait d'ailleurs dans un bureau de l'OCDE à Paris. Voilà, donc la première des choses c'est quoi? C'est 2008-2009, vous avez une économie chinoise qui est très exportatrice. Quand on dit très exportatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dépendez de la consommation des autres. Les autres étant américains et européens. D'ailleurs, contre les idées reçues, hein, le premier partenaire commercial des Chinois, c'est l'Europe, hein, pas les États-Unis. Donc, nous tombons. Hein, nous tombons lourdement. Hein, on n'était pas tombé aussi lourdement depuis les années 30. Donc, notre demande s'affaisse brutalement. Des pays comme l'Allemagne, en quelques trimestres, subissent une décroissance de 6%, entre 6 et 7%. Le Japon décroît en trois trimestres, de 8%. Hein, le PIB décroît de 8%. La Chine passe de 9 à 6. Quand vos exportations pèsent à peu près 45 points de la richesse que vous créez dans une année, autant vous dire, c'est pas vrai. Donc on a quelques... Voilà. Donc là, en vert, vous avez l'évolution du PIB. Je vais pas faire un cours d'économie ce soir. Hein. Le PIB, c'est la richesse créée dans une année, dans un pays. Et globalement, ça, c'est la variable qu'on utilise pour voir si un pays donc, est vigoureux en termes économiques ou l'inverse, si vous avez une décroissance. En vert, l'économie qui tombe de 12-13% à 7-8% très rapidement et qui remonte dans la foulée. Autant vous dire que ça s'est lissé et que ce n'est pas vrai. Donc on a quelques moyens détournés de voir en fait à quel régime évolue la Chine. Et donc en jaune, on regarde la production d'électricité. Parce que ça, bizarrement, ça traduit un peu mieux la capacité d'une usine. Hein. Quand une usine tourne, elle consomme de l'électricité parce que pour fabriquer, il faut faire tourner son outil de production. Et ça demande en fait un usage qui, dans une société aussi industrielle que la Chine, est un bon proxy, est une bonne approximation en fait de l'évolution de l'économie chinoise. Donc la première des choses, c'est attention. Attention, on a un décalage, on n'est pas dans un pays où les données disponibles, un pays transparent, qui permettent d'avoir une confiance aveugle dans les données disponibles. Hein. Le PIB chinois est sorti, on vous donne la donnée, les gouvernants vous donnent la donnée, 15 jours après la fin du trimestre. Aux États-Unis, il faut 3 tours, ça dure 3 mois, et il faut 3 tours de révision pour avoir une vision à peu près correcte de ce qui a été créé dans le trimestre. En Europe, il faut à peu près pareil. Dans un pays continent d'1,3 milliard d'habitants et aussi vaste qu'un continent, justement, je vous laisse... Voilà, juge des données qu'on peut voir. Alors, ça, c'est la première des choses. En gros, c'est pour me dédouaner. Si je me trompe, ce n'est pas ma faute, parce que globalement, les données qu'on a à disposition sont difficilement fiables. Alors, on va très rapidement regarder les fondations. Quelles sont-elles, en fait, de l'économie chinoise depuis 2000 ? 2000, parce qu'avant, en fait, l'économie chinoise, elle ne compte pas vraiment dans le commerce mondial. La vraie rupture, c'est 2001, quand la Chine intègre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire que ça devient un acteur du commerce mondial. Et c'est le début de cette croissance, de cette réussite fulgurante, donc qui atteint son apogée, on va dire, en 2008, en termes d'exportation, et son apogée, sans doute, actuellement, au niveau de la croissance globale. Quel est le tour de force de la Chine? Pourquoi, en fait, elle a aussi bien réussi sur le commerce mondial, alors qu'aucun autre pays dans l'histoire n'avait réussi à ce rythme, en 10 ans, en gros, à l'époque, elle devait faire 2% des exportations mondiales en 2000. Aujourd'hui, elle pèse 12% et c'est le premier exportateur mondial. Comment on arrive aussi vite à devenir numéro 1? Bon, déjà, il faut un avantage. Ce n'est pas pour les beaux yeux, en gros, qu'on devient compétiteur. Donc l'avantage compétitif de la Chine, tout le monde le connaît. Globalement, c'était une économie qui vendait des coûts de production extrêmement faibles. En gros, ça ne coûte pas cher. Ça coûte pas cher et surtout, ça coûte moins cher que produire ailleurs. Ça, c'est le ciment. C'est la première des choses. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si ça suffisait, vous avez des pays comme Madagascar qui seraient déjà, en fait, à des niveaux, enfin, qui seraient des vrais acteurs mondiaux dans le commerce mondial. Si uniquement la variable prix, le coût suffisait à expliquer la réussite et le classement dans la hiérarchie des grands exportateurs. À cet avantage compétitif, les Chinois ont la remarquable intelligence et les Occidentaux la grande crédulité d'ajouter ou de leur permettre d'ajouter à cet avantage compétitif qui était en gros une compétitivité coût. C'est un sujet d'actualité dans nos pays. C'est il y a 10 ans qu'il fallait en parler. On commençait d'en parler. À cette compétitivité coût, on a dit quoi aux entrepreneurs? On a dit, je vous offre sur un plateau des coûts de production plus faibles, mais pour vous permettre de venir, enfin vous pousser à venir, je vous l'offre pendant longtemps. Et en fait, ce qui fait la grande force, ce qui a fait la grande force de la Chine au cours des 10 dernières années, c'est que c'est la seule puissance économique et le seul pays qui a, parce que c'est un pouvoir autoritaire, a su et a pu dire aux entrepreneurs, cet avantage compétitif-là, vous l'avez maintenant et vous l'aurez encore dans 10 ans. Alors ça, maintenant, vous allez me dire comment. C'est ce qu'on appelle le dumping monétaire. C'est qu'en 2001, la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce, ça devient un acteur crédible du commerce mondial, les gens peuvent commencer à échanger, mais à cela, donc, la Chine dit « la monnaie chinoise n'évoluera pas ». Alors, je suis obligé très rapidement de faire un tout petit peu de théorie économique. Plus vous exportez, plus votre monnaie, normalement, naturellement, elle va monter, elle doit monter. C'est-à-dire que finalement, plus vous réussissez, plus vous perdez votre avantage compétitif. En fixant la parité de change, en fixant la valeur de la monnaie chinoise, les Chinois ont pu faire quoi? On dit, je vous offre des coûts de production faibles et ça durera pendant 10 ans. C'est ce qui s'est passé. Ça s'appelle, alors, j'aime bien les images, et c'est ce que j'appellerais jouer au football avec les règles du rugby. Donc, globalement, vous sortez très souvent vainqueur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous captez toutes les parts de marché disponibles. Toutes celles qui sont susceptibles, donc où le seul... la seule compétitivité coût, ou seul le coût de production, donc importe dans la captation de parts de marché, et bien vous l'avez. Et donc vous passez d'un pays qui, en termes de parts de marché, était à 2-3% de la production manufacturière mondiale, à un niveau entre 25 et 30% aujourd'hui, en 10 ans. Ça ne s'est jamais vu. Parce que, avantage compétitif, plus stabilité. Pour investir, je suis aussi chef d'entreprise, pour investir, j'ai besoin de pouvoir me projeter. Je ne vais pas aller m'installer quelque part parce que j'ai un intérêt à le faire, mais si je ne suis pas sûr de le garder le lendemain, je n'irai pas. Donc cet avantage-là, c'est extraordinaire. C'est un tour de force incroyable. Les Chinois ont eu raison de le faire. Les Occidentaux ont eu raison ou tort de l'accepter, entre guillemets. Donc la première partie de la croissance... Alors, je vais dire la première partie parce qu'on va avoir deux grandes dates. 2001, 2008, 2009. 2001, 2008, 2009, pour la Chine, c'est une croissance dont le moteur est exclusivement extérieur, donc repose sur les exportations. Donc les exportations, donc en gros sur la demande des Occidentaux. C'est cette captation de parts de marché et c'est ce grand phénomène des délocalisations. Alors là aussi, ce n'est pas maintenant qu'il fallait parler des délocalisations, c'est il y a 10 ans. Là, on se bat pour des vestiges. Tout est déjà parti, en fait. Vous êtes déjà, en fait, à maturité. Surtout, toutes les productions, je dirais, de produits non différenciés, est déjà parti. Donc là, on lutte pour des symboles. Alors, je vais vous expliquer notre thèse qui expliquerait la raison pour laquelle, finalement, on a accepté ce deal de permettre à la Chine de rentrer dans l'OMC sans qu'elle abandonne, en fait, son dumping monétaire, à savoir une parité de change fixe. Pourquoi ? Parce que tous les acteurs, en fait, ont eu intérêt à ce que ça se passe comme ça pendant une dizaine d'années. Et vous allez voir aussi pourquoi, maintenant, plus personne ne veut entendre parler de délocalisation et l'opinion publique est complètement contre, alors que finalement, c'est une question qui n'intéressait pas beaucoup pendant une dizaine d'années, entre 2001 jusqu'à 2008-2009, jusqu'au début de la crise. Tout bêtement, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça a permis aux Occidentaux? Quel était le bon côté, finalement, des délocalisations à l'époque? Coût de production plus faible. Hein, je fais très rapidement, hein, c'est de la finance d'entreprise toute bête, hein, vous allez vite comprendre. Quand vous produisez, vous dépensez moins pour produire votre bien, vous baissez un peu votre prix de vente, mais pas autant que ce que vous, voilà, que je dirais l'avantage que, dont vous avez bénéficié en délocalisant, ça fait augmenter votre taux de marge. Donc en gros, vous augmentez la profitabilité des entreprises, premièrement. Donc les entreprises sont contentes, les entreprises occidentales sont contentes. Hein. Il faut savoir que pendant très longtemps, 60% des exportations chinoises sont le fait d'entreprises occidentales qui ont délocalisé. Donc ce n'est pas que les Chinois qui en ont profité, beaucoup d'Occidentaux l'ont fait, mais pas de manière homogène, pas via de l'emploi, pas via de la dépense de ménage. Donc un, les entreprises en ont profité. Si les entreprises en profitent, les actionnaires sont contents. C'est légitime, plus il y a de profits, plus il y a de dividendes. Je m'exprime beaucoup devant des professionnels de la finance, ça c'est quelque chose très basique et qui est très compréhensible. Donc, un, les entreprises occidentales bénéficient donc de ce dumping monétaire. Deux, les actionnaires aussi. Trois, vous allez me dire, mais ce sont les ménages qui sont les perdants. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que pas au début. En fait, après, 10 ans après, ce sont les perdants. Mais avant qu'ils s'en rendent compte, il faut une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que globalement, combien ça coûtait ça, il y a 10 ans ? Alors, celui-ci, je sais pas, Epson, oui. Ça coûtait beaucoup plus cher relativement à la création de richesses qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On était dans un moment, enfin, ça fait en gros une vingtaine d'années où il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus d'enrichissement des ménages par l'augmentation de leurs revenus. Ça, ça n'existe plus. Hein, globalement, que vous soyez américain, hein, c'est vrai, dans tous les pays matures, tous les pays riches, avec un degré de développement qui est assez avancé, n'ont pas eu d'inflation par leurs revenus, donc ne se sont pas enrichis par leurs revenus. Donc, globalement, les délocalisations font perdre des emplois et auraient dû faire grincer des dents. Pas du tout. Parce qu'en fait, lorsque vous délocalisez, le moment où vous délocalisez, tout à l'heure je vous ai dit, les entreprises dépensent moins pour produire le même bien. Mais elles le vendent aussi, du coup, un peu moins cher. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans ? On a le temps des délocalisations, on a importé la déflation liée aux délocalisations. Donc vous n'avez pas gagné en pouvoir d'achat par vos revenus, mais vous avez gagné un pouvoir d'achat parce que votre machine à laver, votre téléviseur ou votre barco coûtait moins cher. C'est génial, sauf que ça dure qu'un temps. Ça marche qu'une fois. Une fois que vous avez délocalisé. Donc vous avez bien compris, là où vous gagnez, vous, en tant que ménage, c'est quand vous passez de votre produit fabriqué, bon, il était déjà plus fabriqué en France, hein, d'ailleurs, mais d'Afrique du Nord, globalement, en Chine. Ça marche une fois. Mais une fois que vous l'avez, globalement, on arrive à maturité. Les parts de marché sont captées. C'est déjà le cas. La vraie problématique des Chinois, c'est comment on fait maintenant qu'on a gagné toutes les parts de marché qu'on pouvait gagner. C'est ça la réalité. Donc sur les marchés qu'on maîtrise, à savoir des produits peu qualifiés. Donc maintenant, le problème, c'est que vous retrouvez à toujours acheter le même téléviseur, la même machine à laver, le même barco, mais cette fois, il ne baisse plus les prix. Et qu'est-ce qu'on constate en ce moment ? Que les prix, même, ils remontent. Vous retrouvez, vous, dans un pays où il n'y a pas d'inflation, vous ne gagnez pas plus par vos revenus, hein, sûrement pas, encore moins, je dirais, qu'au cours de la dernière décennie, mais vous importez l'inflation, le régime d'inflation de l'endroit où est produit ces biens-là. Et aujourd'hui, donc ça c'est vrai maintenant pour les ménages ne supportent plus, et donc on fait tous les sondages que vous pouvez voir, on ne peut plus voir en peinture, alors qu'on a été béat devant la réussite des Chinois au cours des 10 dernières années, maintenant c'est l'inverse, hein. On passe du tout au rien, c'est assez classique, du blanc au noir, et aujourd'hui, les gens ne supportent plus l'idée même des délocalisations. Les entreprises non plus d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, ça y est, elles ont déjà bénéficié en fait de cette explosion en fait des taux de marge liés aux délocalisations. Maintenant, elles font pareil. C'est-à-dire qu'elles doivent subir l'inflation salariale des coûts de production en fait, qui est propre à un pays qui était très en retard et qui a des niveaux de croissance qui sont très élevés. Donc, vous l'avez compris, si cette première phase de développement qui reposait sur les exportations de la Chine a été possible, c'est parce que tout le monde, globalement, avait intérêt à ce que ça soit possible. Donc j'aurais dû parler du dernier agent dans nos sociétés. Hein. Les deux agents privés sont les ménages et les entreprises. L'agent public, c'est l'État et les politiques. Bon, vu que tout le monde était content, les entreprises étaient contentes, les actionnaires étaient contents, et les ménages n'étaient pas trop mécontents parce qu'on pouvait acheter son téléviseur moins cher, ben, ça ne pousse pas les politiques à remettre les choses, voilà, à remettre les choses en perspective. Et donc, ils pouvaient être élus sans remettre en question en fait, le modèle de développement en fait, de nos économies. Donc, eux aussi étaient contents. Donc, vu que là, maintenant, les ménages sont plus contents, les entreprises sont plus contentes, ben, les politiques, bizarrement, reprennent ces discours et commencent à lever le doigt et dire « Non, mais c'est pas bien, vous nous prenez des parts de marché. En plus, vous faites du dumping monétaire. fiscale, environnementale, sociale, enfin, et tout le toutim. Ça aurait dû être, enfin, c'est un discours qui aurait dû être tenu il y a 10 ans. C'était écrit. Alors, ça, c'était la première des choses. 2008-2009, en fait, la Chine a déjà dû se réinventer, il y a 4 ans. Au moment de la crise de la récession, la plus grande récession mondiale depuis les années 30, en 2008-2009, je vous ai dit, hein, les exportations sont effondrées. Le grand partenaire chinois, qui est le partenaire japonais, s'est effondré. Donc la Chine s'est effondrée aussi, sauf que vous ne le voyez pas dans les chiffres, à un moment donné. Mais elle a eu la capacité de se réinventer très rapidement. Comment elle l'a fait ? Donc les gouvernants chinois sont assez peu dogmatiques. Hein. Ils sont des grands pragmatiques. Ils ressemblent un peu aux Américains. Dans le sens où, avant, on était plutôt libéral, captation des parts de marché à l'extérieur. La machine s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? Hyper-keynésianisme. Hyper-keynésianisme, comme on n'a jamais vu, enfin, d'une ampleur qu'on n'a jamais constatée par ailleurs dans l'histoire économique. Jamais. Donc, la machine s'enrayant, le deal des gouvernants avec le peuple chinois étant « Vous ne m'embêtez pas en termes de légitimité politique à partir du moment où je vous assure un taux de croissance supérieur à 7-8%. » Ce deal-là étant en danger en 2008-2009, les autorités font quoi ? Disent « J'injecte du carburant dans une machine qui est en train de s'arrêter. » Et comment on fait pour injecter du carburant ? Ben, on fait l'Espagne. C'est le modèle espagnol. Donc la Chine, première partie 2001-2008, c'est le modèle allemand. Des exportations, captation de parts de marché. Alors sur des produits moins haut de gamme, hein, des produits bas de gamme. Captation de parts de marché avec du dumping monétaire. Hein, et en vendant un avantage compétitif. À partir 2008-2009, je fais l'Espagne. Donc, je distribue du pognon pour investir. Et investir dans quoi ? Dans la fabrication d'immobilier. Donc, vous avez des tours qui montent, qui ne se remplissent pas, mais qui montent partout. Hein. Donc, des tours qui montent. Vous avez des trains qui se montent, des TGV, des lignes TGV, des lignes pas TGV. Vous avez des autoroutes qui se montent. Vous avez des ponts qui se montent. Enfin, voilà, vous avez compris. En fait, c'est vraiment un surinvestissement chronique dans les infrastructures. Alors, ça marche là aussi très bien à court terme. La preuve. Hein. Donc, quand tout le monde s'arrêtait, les Chinois sont repartis. Le problème, il est où, d'après vous ? C'est que l'Espagne, donc, je dirais c'est le modèle espagnol jusqu'en 2008, hein, puisque c'est déjà un peu retourné. Hein. Voilà. C'est que lorsque vous investissez, alors comment on fait globalement pour faire de l'hyper-keynésianisme ? C'est tout bête. Vous mettez des taux d'intérêt qui sont très très bas hein, dans une économie qui tourne à toute vitesse. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les taux d'intérêt en Chine étaient de 0%, hein, retraités de l'inflation. Donc, l'argent était gratuit. Donc, vous prenez l'argent, il est gratuit. Et les taux de croissance qu'on constatait étaient de 7, 8, 9%, retraités, 10% retraités de l'inflation. Donc, toute personne sensée, hein, le raisonnement, c'est quand l'argent n'est pas cher du tout et que vous êtes quasi assuré de gagner, qu'est-ce qu'on fait ? Je prends l'argent, je l'investis. Alors, malheureusement, l'économie, c'est pour ça que j'aime bien le répéter, l'économie, ce n'est pas quelque chose d'au-dessus ou quelque chose d'à côté. L'économie, ce n'est que l'agrégation de nos comportements, hein, à tous, là, dans cette salle. Notre pays connaîtra un fort taux de croissance du PIB si vous dépensez beaucoup. Hein, vous achetez beaucoup de bouquins, etc. Donc, c'est vraiment ça, hein, l'économie. L'économie, c'est l'agrégation des comportements individuels. Alors, vu qu'en Chine, à partir de 2008-2009, a des taux d'intérêt qui sont très bas, donc je rends l'argent très facilement accessible et pas cher du tout, essentiellement aux collectivités territoriales, hein, aux régions et aux entreprises publiques. Les entreprises privées, c'est un autre sujet qu'on va évoquer juste après. Donc, l'argent étant très peu cher et étant quasi sûr de gagner si vous investissez, bah, tout le monde a eu le même comportement. Alors, ça, en économie, quand tout le monde va chercher de l'argent, en gros, sans dette pour investir, ça pousse à une très mauvaise allocation de l'épargne. Ça veut dire, tout bêtement, que les projets qui sont financés ne sont pas de qualité suffisante pour revoir la couleur de l'argent que vous avez emprunté derrière. Donc vous achetez la croissance à crédit à court terme, mais une fois que votre tour est monté, si vous n'avez pas de locataire, bah, vous faites défaut. Une fois que votre train est monté, si le prix du billet de TGV est trop cher pour la population locale et pas assez rempli, voilà, et même s'il était rempli d'ailleurs, ça a coûté tellement cher. Bon bref, voilà. Mais bon, on va dire qu'il n'est pas assez rempli, vous faites défaut. Ou si votre autoroute, le péage est démesurément élevé au regard du pouvoir d'achat des Chinois eux-mêmes, vous faites défaut. C'est l'Espagne, hein, c'est tout bête. Hein. Alors, ça marche hyper bien au début. Parce qu'il faut quoi pour monter la tour ? Il faut des mains. Et qu'il faut des mains, ben, y a des gens qui sont payés. Donc, en fait, il faut des emplois. Donc, alors, maintenant, je vais vous donner quelques ordres de grandeur, parce que là, tout ça, c'est du discours. Hein. Les exportations en Chine, ça pèse 45% de la richesse créée dans une année. Donc c'est très élevé. Donc c'est vraiment le modèle allemand. Il n'y a que les Allemands d'ailleurs qui sont au-dessus. Ils sont autour de 50 points de PIB. L'investissement, donc ça c'est le premier pilier. Donc le premier pilier, je ne vais pas vous la refaire hein, globalement. Donc s'il y a beaucoup d'exportations, ben, on est très dépendant et très vulnérable de la consommation des gens qui sont en face. Les gens qui sont en face sont les Européens et les Américains. Deuxième pilier, l'investissement. Le taux d'investissement en Chine, c'est 50% du PIB. 50% de la richesse créée. Pour vous donner une idée, record battu, hein, absolu partout. Vous pouvez faire en vertical, c'est-à-dire partout dans le monde, ou en horizontal plutôt, et en vertical, c'est-à-dire dans le passé. On n'a jamais vu dans l'histoire économique un pays autant investir à ce stade de développement. Les deux pays qui ressemblent un petit peu à ce qu'il a connu sont le Japon des années 50-60, hein, quand c'était à l'époque un nain économique, et la Corée du Sud. Ces pays-là n'avaient jamais atteint un niveau qui était au-delà de 36 à 38 points de PIB en termes de taux d'investissement. Pour vous rendre compte ce que c'est 50% d'investissement, c'est que chaque année, pour produire la même quantité de richesse que l'année qui vient de s'écouler, eh bien, il faut construire autant de tours, autant de ponts, autant de lignes de TGV pour créer le même degré de richesse. Vous comprenez qu'en fait, c'est une course qui finit mal systématiquement. Parce qu'à un moment donné, donc, il faut trouver... Donc, un, première analyse, les exportations. Est-ce que la demande intérieure des Européens et des Américains est très florissante? Moyen. Hein, elle ne s'effondre pas, mais moyen. Enfin, en Italie, en Espagne, elle s'effondre. Hein, moins 5, moins 6, moins 7% par an. Mais chez nous, elle ne s'effondre pas. Donc, ce n'est pas très florissant. Donc, il faut que quelque chose prenne le relais. L'investissement, qui est le gros pilier aujourd'hui sur lequel l'économie chinoise repose depuis 4 ans, 50 points de PIB, va commencer à s'affaisser parce que, il y a 4 ans, c'était plus simple à faire qu'aujourd'hui. Quand, en gros, vous faites 50%, on va dire, à l'époque, pour passer de 100 à 200, bah, c'est compliqué, mais bon, il faut doubler. Mais pour doubler l'année d'après, hein, faut passer de 200 à 400. Et pour redoubler l'année d'après, il faut passer de 400 à 800. Ce qui fait qu'à terme, ça devient quasi impossible. La Chine ne peut pas renouveler ce qu'elle a fait en 2008-2009 dans les telles proportions. Donc là, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis le montant de crédit distribué hein, à partir de 2008-2009. Donc je vous ai dit, la première partie, c'est très clair. Donc on n'utilise pas l'investissement comme moteur de croissance. La machine s'arrête à la fin de l'année 2008. Voilà, on y va. On lâche une montagne de crédit qui représente à peu près 27 points de PIB. Ça ne vous parle pas, c'est absolument gigantesque. Si je m'appelais Nicolas Sarkozy à l'époque, j'injectais 27 points de PIB sous forme de crédit dans mon économie et j'étais ruiné en 2012. Hein. Voilà. Sauf que bon, vous faites faillite 3 ans plus tard. Tout ça pour vous dire que c'est une vision de très court terme, mais c'est d'une ampleur absolument incroyable. Donc on en est là. Ça, c'est l'état des lieux. Donc maintenant, posons-nous la question de la demande intérieure. Vous allez dire que je suis très noir. Non. J'essaie d'être le plus factuel possible. Là, je vous parle de faits jusque-là. Donc, les trois piliers potentiels, exportation, investissement, demande intérieure, à savoir consommation des ménages. Je commence par vous poser une première question. Sur quoi repose la richesse concrète dans notre pays aujourd'hui? Majoritairement. Sur vos comportements. Le premier contributeur à la croissance, pour deux tiers, c'est énorme, c'est les dépenses des ménages. Donc ça me permet de glisser un petit message. Arrêtons toujours de croire que les sauveurs viendront de l'extérieur. C'est nos comportements, ce sont nos choix qui feront qu'on s'en sortira ou qu'on ne s'en sortira pas. Parce qu'aujourd'hui, vous faites la somme des dépenses des ménages français et de l'investissement des entreprises et des ménages français, vous êtes à peu près à 80% du PIB, c'est-à-dire les 4/5 de la richesse que vous créez dans notre pays. Première des choses. Alors, ce n'est pas du tout le cas de la Chine. Donc, on vous dit, c'est l'explosion d'un marché intérieur. Oui, il y a un marché intérieur qui se développe, mais en proportion de la taille de l'économie, la consommation des ménages chinois, elle est passée de 45 points de PIB en 2000 à aujourd'hui 35 points de PIB. C'est-à-dire, chez nous, elle pèse 2/3. Chez eux, les dépenses des ménages, ça pèse 1/3. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit cours d'arithmétique tout bête, hein, basique. Tout à l'heure, je vous ai dit 50 points de PIB dans l'investissement, 45 points dans les exportations. Donc, si nos demandes à nous, les demandes intérieures des pays occidentaux, ralentissent un peu, c'est-à-dire que globalement, vous avez moins de croissance liée aux exportations là-bas. Si il devient plus difficile d'investir autant que l'année passée en Chine, donc on passe de 50% à 45 points de PIB de taux d'investissement, ce qui sera toujours au-dessus de tout ce qu'on a vu dans l'histoire, par le passé, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait comme augmentation de la demande intérieure et des dépenses des ménages chinois pour compenser, en fait, une envolée de 25 à 30% par an. Alors, les gens pourraient vous dire pourquoi pas. Maintenant, là encore, on aimerait bien avoir les deux pieds ancrés dans le sol. Quand je construis moins de tours, quand je construis moins d'aéroports, quand je construis moins d'autoroutes, globalement, qu'est-ce qu'on fait en moins ? J'embauche moins. Moins d'emplois. À mon sens et à mon avis, le jour où l'investissement ralentit en Chine, la demande des ménages ralentit en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des vases communicants. Donc la vraie question, et donc là maintenant, c'est vraiment la question. Donc là, c'est un diagnostic qui s'avère assez sévère aujourd'hui sur l'état actuel de l'économie chinoise aujourd'hui. Mon propos n'est pas de venir vous dire que l'économie chinoise n'a pas un potentiel demain. Elle en a un certain. Maintenant, par rapport à un certain nombre de mes confrères, notre propos, c'est de dire essentiellement, est-ce que le chemin pour transformer une économie qui repose essentiellement sur un modèle de développement issu de notre deuxième révolution industrielle, à savoir très énergivore, sur des produits très peu qualifiés et qui repose absolument pas sur la demande intérieure et uniquement sur des exportations, donc une économie très bas de gamme, on peut arriver à transformer donc, ce modèle de développement-là de manière réformiste, sans connaître d'accident, vers un modèle de développement qui repose essentiellement sur la demande intérieure. En économie, lorsqu'on dépasse un certain nombre d'effets seuil, de niveau, il est très difficile d'éviter ce qu'on appelle en fait un accident de croissance. Notre propos, encore une fois, ce n'est pas de savoir si la Chine reconnaîtra de la croissance en 10 ans, c'est de dire est-ce que la Chine va connaître 10% de croissance par an dans les 10 ans qui viennent, chaque année, sans connaître d'accident. Vous avez compris que notre conclusion, c'est évidemment non. Alors, maintenant, souvent un graphique vaut mieux qu'une belle parole. Envers l'investissement, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Fois 23, puis 1990. C'est des niveaux qui sont très élevés. Le PIB fois 17. On est aujourd'hui autour de 6 500 $ de PIB. Je vais vite, je vous montre uniquement ce qui est intéressant. Je vous fais l'économie du reste. Voilà, donc le taux d'investissement en Chine. Donc je vous montre les chiffres pour éviter de dire qu'on les manipule. La Chine, c'était en 2000 35% du PIB, aujourd'hui c'est 48%. La moitié de la richesse créée, c'est de l'investissement. Ailleurs, bon, en Inde, on est sur des niveaux élevés. Bon, en France, Espagne ou autre, bon, vous voyez, bon, c'est des ordres de grandeur qui n'ont absolument rien à voir. Et ça, c'est comparé donc, à la Corée du Sud et au Japon, à leur apogée de l'époque. Donc vous voyez, on n'a jamais dépassé 38-39% du PIB en termes de taux d'investissement. Alors, maintenant, comment on fait pour développer une demande intérieure ? Donc, pour développer une demande intérieure, on paye plus. Alors, ça veut dire quoi, payer plus ? Tout bêtement, pourquoi, en fait, la consommation des Chinois, ça pèse que 35 points de PIB, donc des Chinois, alors que chez nous, ça pèse 60%, entre 60 et 70%. Mais là, vous l'avez là. C'est tout bête. Quand la masse salariale représente, en France, 66% du PIB, la consommation des ménages représente 66% du PIB. Quand la masse salariale en Chine pèse 42% du PIB, là-bas, c'est 35 points de PIB. Donc, en fait, il y a une corrélation parfaite. Et pourquoi je vous le montre, celui-ci ? Pour bien comprendre que si les gouvernants qui communiquent beaucoup et qui annoncent leur volonté de transformer ce modèle de développement de l'extérieur vers l'intérieur en développant un marché intérieur, donc un marché intérieur et une consommation forte des Chinois, donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le passage à l'acte. On est très très en retard et pour regagner du terrain, il va falloir reconstruire un nouveau modèle économique qui sera moins basé sur des produits à faible valeur ajoutée, en gros sur des jouets, où tout le monde peut le faire. Et donc le seul argument qui va faire venir des entreprises, ça va être la variable coût, et plus s'orienter vers des produits à forte valeur ajoutée, et donc devenir des compétiteurs, des occidentaux. Donc, pour ce faire, deux choses, augmentation des salaires, c'est-à-dire qu'il faut remettre à plat totalement, redistribution complète de ce qui a fait la réussite des Chinois au cours des 15 dernières années. Donc ça veut dire que globalement, vous perdez la compétitivité coût pour vous orienter vers la compétitivité hors coût qui repose essentiellement sur l'innovation. Alors, maintenant, c'est un passage qui pour nous est extrêmement important et qui est assez prospectif sur la Chine. Comment faire ? Donc c'est un projet louable. Maintenant, la question, est-ce que c'est faisable ? Donc de s'orienter vers un modèle de développement qui repose plus sur l'innovation. Alors, il y a des études qui sont très très bien faites sur la relation étroite entre l'innovation et la démocratie. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas un hasard, en fait, si la Californie... Les États-Unis ne sont pas un grand pays d'innovation. La Californie est une grande région d'innovation. Et ce n'est pas un secret, en fait. Ce n'est pas plutôt un hasard, si c'est la Californie, où on invente Apple, où on invente en fait le monde de demain. Tout bêtement parce qu'en fait, on a transformé là-bas. On est passé d'une gouvernance qui était verticale dans l'ensemble de nos pays et qui est très verticale en Chine, à une gouvernance qui est beaucoup plus horizontale. Parce que l'innovation aujourd'hui, l'innovation de rupture, elle repose essentiellement sur le débat contradictoire. Et c'est, à notre sens, un des éléments contraignants et qui sera très difficile, donc, de dépasser pour les gouvernants chinois. C'est avec un pouvoir autoritaire qui est structurellement, naturellement, consubstantiellement antinomique avec le débat contradictoire. C'est extrêmement compliqué. Même si vous investissez énormément, investir énormément dans la recherche et développement, ça ne veut pas dire trouver. Trouver, pour cela, il faut accepter la remise en cause, il faut accepter le débat contradictoire, et aujourd'hui, on en est très très loin. Donc, la vraie question de société qui va se poser en Chine, c'est est-ce que les gouvernants, conscients des limites actuelles du modèle de développement chinois, et conscients que leur avenir ne peut passer que par une innovation, que par des produits vendus à plus forte valeur ajoutée qui passeront par une innovation, seront prêts à redistribuer les cartes lorsque le pouvoir est captif. Donc c'est là la vraie question, et c'est une question qui est tout à fait d'actualité. À notre sens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a changé de président et de gouvernance actuellement, ces derniers jours en Chine, qu'on s'oriente vers une économie qui aurait les armes suffisantes pour s'orienter en fait vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Alors, je regarde le temps, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait des contraintes, sinon on est enfermé dedans. Parfait, donc on a encore du temps. Voilà, masse salariale, donc voilà, vous avez compris, pour une économie qui est tournée sur son marché intérieur, cette chute extrêmement forte de la masse salariale, c'est pas possible. Je vais très vite. Voilà. Voilà, pour vous montrer. Alors, maintenant, j'ai commencé par vous dire que c'est compliqué d'avoir un point de vue sur la Chine à partir des données qui sont diffusées. Alors, à l'origine, on est des professionnels des marchés financiers. Donc, on regarde aussi les marchés financiers en Chine. Et pour nous, c'est un élément et un indicateur qui est très intéressant. Pourquoi ? Donc, vous êtes dans un pays, vous allez comprendre très vite, vous êtes dans un pays où normalement, si on avait une demande intérieure qui est très très vigoureuse, vous devriez avoir en fait une profitabilité des entreprises très élevée. Les entreprises devraient gagner beaucoup d'argent. Ça vous paraît logique jusque-là. Beaucoup de croissance, beaucoup de profit. Quand on regarde en détail la manière en fait dont est constituée aujourd'hui la profitabilité des entreprises chinoises, c'est très éclairant. En gros, la moitié des profits des entreprises chinoises sont des banques administrées. Le reste, pétrole et gaz, prix administré. Et quand on voit, on vous parle beaucoup, vous savez, des 18 millions de véhicules vendus chaque année en Chine. Les profits chinois dans l'automobile, c'est 3%. La construction, qui est extraordinaire, c'est quelques pourcents. La réalité, c'est qu'en fait, le tissu, et ça, c'est une des thèses fortes qui nous dit et qui explique en fait la raison pour laquelle on a publié ce livre-là maintenant. Parce qu'on pense que l'accident de croissance, il arrive dans les 2 ans. Pour une raison assez simple, c'est que le tissu des entreprises privées, quand vous vous déplacez, en fait, souffre terriblement actuellement parce que les taux de marge, donc qui, en gros, leur profitabilité est très faible, est trop faible. En fait, leur niveau de prix de vente n'est pas assez fort au regard de leur coût de production. Alors, quand vous avez à Shanghai, jusqu'à l'année dernière, globalement, vous aviez des niveaux de croissance qui, en valeur, hors inflation, atteignaient 25 à 30% par an. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, vous compensez la hausse des coûts de production à l'intérieur de votre pays par plus de parts de marché, quand c'est 25 à 30% comme ça. Voilà. Quand en plus vous êtes une entreprise privée, tout à l'heure je vous ai dit, il y a eu une orgie de crédit qui a été distribuée par les banques, mais essentiellement soit aux entreprises publiques, soit aux collectivités territoriales, hauteur des 3/4. Donc peu aux ménages et peu aux entreprises privées. Les entreprises privées, pour se financer, donc se sont organisées. Ce qu'on appelle le shadow banking, c'est le concept des subprimes, bon, à la chinoise un peu différente. Voilà, le coût de financement des entreprises chinoises quand vous y allez, nous on en rencontre des vrais, pas Shanghai et cette vitrine commerciale qu'on peut apparenter au château de Versailles de l'époque. Hein, où quand vous allez à Shanghai, c'est la plus belle, c'est leur plus belle vitrine, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Voilà, et quand vous baladez en Shanghai, vous ne pouvez qu'avoir cette sensation de déclin chez nous et de... Et je dirais d'hégémonie à venir chez eux. Bon, ça, c'est un concept réinventé, globalement. Mais quand vous allez vraiment voir les entreprises privées, hein, celles qui ne sont pas les entreprises publiques, qui ne bénéficient pas en fait, des conditions de financement que l'État décide, on est sur des niveaux de financement qui peuvent atteindre parfois entre 15% par an, 20% par an, voire parfois 25% par an. Ça vous paraît incroyable, insupportable? Non. Si vous avez 25 à 30% par an, vous financez à 20%, c'est pas grave. C'est l'écart entre les deux qui compte. La problématique, c'est que par contre, si votre 25% de croissance quand vous financez à 20% par an tombe à 15%, bah vous faites faillite dans les 3 mois. Il y a quelques dirigeants ici ou créateurs d'entreprises qui le comprendront très vite. Donc la problématique actuelle, pourquoi on parie sur un accident de croissance à très court terme qui est classique, qu'on a connu dans nos années 70. En gros, quand on a une politique monétaire qui est beaucoup trop expansionniste, ça pousse à s'orienter, à surinvestir dans des projets qui ne sont pas rentables, et ça pousse les entreprises également à avoir des trop faibles taux de marge, voilà, à ne pas être assez exigeantes en termes de marché. Et aujourd'hui, le ralentissement des Occidentaux, qui pèse beaucoup dans la richesse créée chaque année en Chine, explique qu'on passe de cette barrière, en fait, cette ligne de niveau, hein, cette ligne d'eau, donc des 20-25% de croissance nécessaire pour que l'ensemble des entreprises fonctionnent, vers des taux de marge qui deviennent négatifs. Et là, très vite, en fait, vous avez ce qu'on appelle une récession liée à une surcapacité d'offres. L'offre de production en Chine est trop importante au regard de la capacité du marché intérieur à consommer les produits créés. Okay ? À partir du moment où les étrangers sont moins susceptibles de les consommer, ces produits, bah, vous vous retrouvez tout bêtement avec un outil de production qui n'est pas utilisé suffisamment, des taux de marge qui deviennent négatifs, et à partir de là, des risques de multiplication de faillite classiques. Donc ce qu'on est en train de décrire, c'est simplement le fait qu'on a cru jusque-là, et ça a beaucoup été expliqué comme cela, que le modèle économique chinois, comme à l'époque, dans les années 80, le modèle économique japonais, était supérieur par essence. Il est pas, et qu'il était nouveau. Il n'est ni nouveau, c'est notre modèle de la seconde révolution industrielle, où on vend d'abord de la compétitivité coût, où on se fout du profit et on préfère raisonner en part de marché, c'est-à-dire en chiffre d'affaires, même si les taux de marge du coût sont relativement faibles. Voilà. Et ça aboutit à quoi? Chez nous, dans les années 70, à des récessions qui sont brutales, parce qu'on a un outil de production qui est trop important au regard de la capacité du marché intérieur à le consommer. Voilà. Et donc, c'est notre diagnostic à très court terme pour l'économie chinoise. Bien, merci. Je vous propose, si vous voulez, donc l'ouvrage est disponible ici. Et je vous ferai une petite signature si vous le souhaitez.